Chapitre 30. Le voyage en Sony se révéla encore plus excitant qu'Armand ne l'avait imaginé, et pourtant il se savait doué d'une excellente imagination. En outre, il était le seul membre du trio à avoir chevauché un cyclone de foudre assis sur une chaise en bois pour rallier un astéroïde de l'anneau équatorial depuis le bassin méditerranéen, et il supposait que rien ne saurait être plus palpitant que ce périple. Il ne se trompait pas, mais c'était tout juste. Le Sony passa le mur du son, un concept que Armand avait découvert un mois plus tôt en siglant un livre. Avant d'avoir atteint les 2000 pieds et lorsque l'appareil traversa la couche nuageuse pour émerger au soleil, il filait quasiment à la verticale et laissait derrière lui un sillage de bang. Le rugissement de l'air glissant sur le champ de force était si bruyant que toute conversation devenait impossible. Mais aucun d'eux n'était en état de parler. Le même champ de force qui les protégeait du vent les clouait sur leur couchette. Personne n'était toujours inconscient, Anna lui avait passé un bras autour de la taille, et Pétir, les yeux écarquillés, fixait les nuages qui s'éloignaient à toute vitesse derrière eux. En moins de quelques minutes, le rugissement se transforma en sifflement, puis en simple soupir. Le ciel bleu vira au noir. L'horizon s'incurva tel un arc blanc tendu avant le tir, et le Sony continua à filer vers le ciel, pointe argentée d'une flèche invisible. Puis, les étoiles devinrent soudain visibles, apparaissant d'un coup plutôt que de façon progressive, comme elles le font au crépuscule, emplissant le ciel noir ainsi qu'un feu d'artifice muet. Au zénith, les anneaux E et P luisaient d'un éclat sinistre. L'espace d'un instant de terreur, Armand crut que c'était là que le Sony les conduisait. Après tout, c'était à son bord que Daeman, Anna et lui avaient fui l'astéroïde orbital de Prospero. Mais la machine se redressa, et il comprit qu'ils se trouvaient encore à des milliers de kilomètres des anneaux, qu'ils étaient à peine sortis de l'atmosphère. Certes, l'horizon était incurvé, mais la Terre emplissait encore leur champ visuel au nadir. Lorsque Savi, Daeman et lui avaient chevauché le vortex de foudre pour gagner l'anneau E, la Terre lui avait paru bien plus petite.
« Armand !»
Anna l'appela depuis sa couchette, car le Sony venait de pivoter sur lui-même, la planète ennuagée de blanc se retrouvant au-dessus de leur tête.
« Armand, est-ce que tout va bien? C'est vraiment comme ça que doit se passer le voyage ?»«
Oui, tout est normal, » répondit-il.
Diverses forces, dont la peur n'était pas la moindre, tentaient de l'arracher à sa couchette, mais le champ de force et le filet de sécurité le retenaient fermement. Son estomac et son oreille interne réagissaient à l'absence de pesanteur et d'horizon. En fait, il ignorait si leur situation était normale. Peut-être que le Sony venait de rater une manœuvre vitale et qu'ils allaient tous mourir dans quelques secondes. Pétir accrocha son regard et Armand vit que le jeune homme n'était pas dupe de ses mensonges.
« Je risque de vomir »,
déclara Anna d'un ton des plus posés. Le Sony piqua soudain, propulsé par des forces et des tuyères invisibles, et la Terre se mit à tourner sur elle-même.
« Ferme les yeux et accroche-toi, Odysseus !»
lança Armand. Le bruit revint lorsqu'ils rentrèrent dans l'atmosphère terrestre. Armand se surprit à scruter les anneaux, se demandant si l'île orbitale de Prospero n'avait pas survécu, si Daeman avait raison de croire que c'était Caliban qui avait massacré sa mère et les voisins de celle-ci. Plusieurs minutes s'écoulèrent. Armand eut l'impression qu'il se dirigeait vers le continent jadis appelé Amérique du Sud. Les deux hémisphères étaient envahis de nuages tourbillonnants, crénelés, cannelés, aplatis ou titanesques, mais il entrevit dans une trouée le détroit qui séparait les deux masses continentales, là où, à en croire sa vie, un isthme les avait autrefois réunis. Puis le feu les entoura de toutes parts, et le vacarme se fit plus assourdissant encore que durant leur ascension. Le Sony s'enfonçait dans l'atmosphère comme une fléchette tournant sur elle-même.
« Tout va bien !»
hurla Armand à ses deux compagnons.
« Je suis déjà passé par là ! Tout va bien !»
Comme il ne pouvait pas l'entendre, le rugissement étouffait tous les autres sons, il ne leur précisa pas qu'il n'avait connu qu'une seule expérience similaire. Anna se trouvait à bord de ce même Sony lorsque Daeman et Armand avaient fui l'île orbitale de Prospero, désormais en perdition, mais elle n'était qu'à moitié consciente et n'avait gardé aucun souvenir des événements. Armand finit par décider de fermer les yeux pendant que le Sony fondait sur la Terre dans sa bulle de plasma.
« Qu'est-ce que je fiche là ?»
Le doute montait à nouveau en lui. Il n'avait rien d'un leader. Qu'est-ce qui lui avait pris de réquisitionner le Sony et de risquer ainsi sa vie et celle des autres? Se croyait-il vraiment capable d'arriver à bon port, lui qui n'avait jamais piloté dans ces conditions? Et quand bien même il y parviendrait, avait-il le droit de priver Hardis du Sony en cette heure cruciale? Ils auraient dû traiter en priorité la situation à Paris-Cratère et dans les autres communautés victimes de cet ébos, plutôt que d'aller au Golden Gate à Machu Picchu à seule fin de sauver Odysseus. Comment avait-il pu abandonner Ada, son épouse enceinte qui dépendait désormais de lui? Personne allait presque certainement mourir, alors pourquoi risquer des centaines de vies, voire des milliers s'il ne prévenait pas à temps les autres communautés, dans cette tentative désespérée de sauver un vieillard? Un vieillard? Le vent hurlait de plus belle, le Sony vibrait de partout, et Arman s'accrocha à sa couchette en grimaçant. Le vieillard, c'était lui, car 2 mois à peine le séparaient de son 5e et dernier vin. Surpris, il se rendit compte qu'il s'attendait toujours à disparaître le jour de son prochain anniversaire, à être faxé dans les anneaux même s'il n'y avait plus de cuve de soins pour l'accueillir. Et c'est peut-être bien ce qui va se passer. Sans doute était-il l'homme le plus âgé de la planète, exception faite d'Odysseus personne, dont l'âge demeurait inconnu. Sauf que personne risquait de mourir d'une minute à l'autre. Et nous aussi, sans doute, songea Arman. Qu'est-ce qui lui avait pris d'engendrer un enfant avec une femme qui avait fêté son 1er vin à peine 7 ans plus tôt? De quel droit encourageait-il ses semblables à rétablir l'idée de famille telle qu'on la concevait durant l'ère perdue? Qui était-il pour affirmer que dans cette nouvelle réalité qui était la leur, la paternité devait être universellement reconnue, la cellule familiale universellement acceptée? Oui, ce vieillard dénommé Arman, que savait-il exactement des notions de famille et de devoir dont il s'était fait l'avocat? Était-il vraiment qualifié pour gouverner ses semblables? La seule chose qui le distinguait de ceux-ci, se dit-il, c'est qu'il avait appris à lire tout seul. Des années durant, il était resté la seule personne sur Terre capable d'une telle prouesse. Et alors? Aujourd'hui, il suffisait de vouloir la fonction siglage pour l'obtenir, et nombre des habitants d'Ardis avaient la capacité de décoder les sons et les signes émis par les livres de jadis. « Je n'ai rien de spécial après tout. » Le bouclier de plasma s'estompa autour du Sony, qui cessa de vriller, mais des flamèches léchaient encore sa coque invisible. Si le Sony est détruit, ou s'il se retrouve à court de carburant, ou d'énergie, ou peu importe, Ardis est condamné. Personne ne saura ce que nous sommes devenus. Nous aurons disparu, tout simplement, et Ardis sera privé de sa machine volante. Si les Voynix lancent une nouvelle attaque, ou si Cétébos décide de débarquer, Ada et les autres se retrouveront coincés sans pouvoir rallier le pavillon fax depuis le manoir. Je les ai privés de leur seule chance de survie. Les étoiles disparurent, le ciel devint indigo, puis bleu pâle, et ils entrèrent dans les nuages alors que l'appareil perdait de la vitesse. « Si je réussis à trouver une crèche pour personne, je retourne tout de suite à la maison », se dit Arman. « Je resterai désormais auprès d'Ada, que Daeman, Pétir, Anna et les autres jeunes se chargent du commandement et des missions d'exploration. » Il faut que je pense au bébé. Cette perspective était encore plus terrifiante que les violents soubresauts du Sony. La machine volante effectua une longue descente, enveloppée de nuages qui frôlaient le champ de force comme des volutes de fumée, se mêlant à la neige, puis filant à toute allure telles les âmes ascendantes des milliards d'êtres humains ayant jadis peuplé la Terre encore occultée. Puis le Sony émergea de la masse nuageuse, 3 000 pieds au-dessus des montagnes, et Arman découvrit à nouveau le Golden Gate à Machu Picchu. Il s'agissait d'un haut plateau verdoyant, découpé en terrasses, bordé par des pics escarpés et de profonds canyons d'un vert plus sombre. L'antique pont, dont les pylônes rouillés étaient hauts de plus de 200 mètres, frôlait sans les toucher les parois des 2 pics flanquant le plateau, sur lequel subsistaient les traces de ruines encore plus anciennes. En effet, seuls des murs de pierre affleuraient encore dans l'herbe, là où s'étaient jadis dressés des bâtiments. Sur le pont proprement dit, on apercevait ça et là des traces de peinture qui ressemblaient à des taches de lichen, mais l'édifice avait pris une teinte rouille proche de celle du sang. La chaussée s'était effondrée en plusieurs endroits, quelques suspentes avaient cédé, mais le Golden Gate n'en demeurait pas moins un pont, même si ce pont ne permettait d'accéder nulle part. La première fois qu'Arman avait découvert cette structure en ruine, il avait cru que les pylônes et les câbles porteurs étaient enveloppés d'un lierre vert vif, mais il savait maintenant que ces bulles, ces lianes et ces tubes connecteurs verts constituaient un réseau d'habitats, sans doute greffés au pont plusieurs siècles après sa construction. S'il fallait en croire sa vie, qui ne plaisantait pas toujours, c'était grâce aux globes et aux vrilles de buky vert que l'édifice tenait encore debout. Arman, Anna et Pétir se redressèrent sur leurs coudes pour contempler la scène, tandis que le Sony ralentissait, passait en position horizontale et entamait une longue descente qui leur ferait aborder le plateau et le pont par le sud. La vue était encore plus spectaculaire que la première fois, songea Arman, car le ciel était bas, la pluie tombait sur les pics, et le ciel à l'ouest, derrière la chaîne de montagnes, était zébré d'éclairs, alors même que des rayons de soleil réussissaient à percer les nuages, illuminant le pont, la chaussée, les globes verts et le plateau en contrebas. Des averses isolées interposaient des rideaux de pluie entre le Sony et le pont, occultant la scène l'espace d'une minute, puis filaient vers l'est pour laisser la place à de nouveaux rayons de soleil, si bien que le panorama semblait animé d'un mouvement apparent. Pas seulement apparent, se dit Arman. On voyait bouger quelque chose sur le pont et sur la colline. Des milliers de choses. Arman crut d'abord à une illusion d'optique due à l'alternance rapide entre lumière et pénombre, mais comme le Sony piquait vers le pylône nord en vue d'y atterrir, il comprit qu'il voyait en fait des milliers de Voynix, peut-être même des dizaines de milliers. Les créatures sans yeux, au corps gris et à la bosse gainée de cuir, grouillaient sur le plateau parmi les ruines, escaladaient les pylônes, se bousculaient sur la chaussée fracassée, rampaient comme de gros cafards le long des suspens trouillés. Il y en avait une vingtaine sur le toit du pylône nord, là où sa vie s'était posée la dernière fois, là où le Sony semblait vouloir se poser maintenant. « Approche automatique ou manuelle ?» demanda la machine. « Manuelle !» s'écria Arman. Les holocontrôles virtuels apparurent devant lui et il tourna l'omnicontrôleur afin d'éviter le pylône nord quelques secondes avant le contact, alors qu'il ne se trouvait qu'à 15 mètres du toit. Deux des Voynix bondirent sur eux, le premier parvenant à 3 mètres de l'appareil avant de retomber sur une hauteur de 200 mètres, voire davantage. Les autres suivirent leur progression aux infrarouges, rejoints par plusieurs douzaines de leurs congénères dont les lames et les coussinets à ergo tailladaient le ciment à mesure de leur ascension.
« Impossible d'atterrir !» déclara Arman.
Le pont, les collines et même les pics étaient maintenant envahis par ces monstres.
« Il n'y a aucun Voynix sur les bulles vertes !»
lança Pétir. Il s'était agenouillé en position de tir, l'arc tendu et une flèche déjà encochée. Le champ de force s'était désactivé, les laissant exposés à un air frais et humide. L'odeur de pluie et de pourriture était très forte.
« On ne peut pas se poser sur les bulles vertes !»
répondit Arman qui fit tourner le Sony 30 mètres au-dessus des suspentes.
« C'est sans espoir! Il faut faire demi-tour !»
Il mit le cap au nord et commença à prendre de l'altitude.
« Attends !»
appela Anna.
« Stop !»
Arman ralentit et programma le Sony pour qu'il tourne en rond. À l'ouest, des éclairs illuminaient les nuages bas et les sommets à pic.
Lors de notre première visite, il y a 10 mois, j'ai exploré les lieux pendant qu'Ada et toi alliez chasser l'oiseau terreur avec Odysseus,
dit Anna.
L'une des bulles du pylône sud contenait d'autres Sony. On aurait dit un, je ne sais plus, quel est ce mot que nous avons siglé dans le livre relié de gris? Un garage?
D'autres Sony,
s'exclama Pétir. Arman avait envie de lui faire écho. Une flotte de machines volantes aurait grandement aidé Ardis. Il se demanda pourquoi Odysseus ne leur en avait pas parlé lorsqu'il était retourné au Golden Gate quelques mois plus tôt pour en rapporter les fusils à fléchettes.
« Enfin, non, c'était plutôt des morceaux de Sony, »
s'empressa d'ajouter Anna.
« Des coques, des pièces détachées. »
Arman secoua la tête, sentant son enthousiasme se dissiper.
« Quel rapport avec... C'est un endroit où les Sony peuvent se poser !»
Arman mit le cap sur le pylône sud, veillant à ne pas s'approcher des Voynix. Il y en avait plus d'une centaine sur le toit, mais aucun sur les dizaines de bulles vertes qui poussaient sur les murs comme des grappes de taille variée.
« Je ne vois aucune ouverture, » dit-il. « Il y a tellement de bulles. Comment pourrais-tu reconnaître celles dont tu parles ?»
Ainsi qu'il l'avait appris lors de leur première visite, les parois de ces bulles étaient transparentes vues de l'intérieur, mais opaques vues de l'extérieur. Un éclair illumina les lieux. Il se remit à pleuvoir et le champ de force s'activa automatiquement. Tous les Voynix, sur les pylônes et ailleurs, suivaient le mouvement circulaire du Sony avec leur capteur infrarouge.
« Je vais m'en souvenir !»
insista Anna, qui s'était elle aussi agenouillée sur sa couchette, sans pour autant lâcher la main d'Odysseus.
« J'ai une très bonne mémoire visuelle. Il me suffit de refaire mentalement le chemin que j'ai suivi ce jour-là, puis d'examiner le paysage sous plusieurs angles, et je localiserai la bulle en question. »
Elle parcourut les lieux d'un regard circulaire, puis ferma les yeux durant une minute.
« C'est là !»
Elle désignait une bulle située aux deux tiers de la hauteur du pylône, saillant d'une vingtaine de mètres de sa façade rouillée. Un globe vert parmi des centaines d'autres. Harman se rapprocha.
« Je ne vois pas d'ouverture !»
dit-il tandis qu'il manœuvrait l'omnicontrôleur pour immobiliser l'appareil à 30 mètres de la bulle.
Et sa vis était posée au sommet du pylône nord.
« Mais il devrait être possible d'entrer en sonnie dans ce garage, ça tombe sous le sens !»
insista la jeune femme.
« Je me rappelle que le sol était plat et fait d'une autre substance que les parois. »
« Si je me souviens bien, Savi nous a dit qu'il s'agissait d'un musée, » intervint Pétir, « et j'ai siglé ce mot il y a peu. Peut-être que les sonnies y étaient introduites pièce par pièce. »
Anna secoua la tête. Pour la énième fois, Harman se dit que cette sympathique jeune femme pouvait à l'occasion se montrer butée.
« Rapprochons-nous encore !»
proposa-t'elle.
« Les Voynix, » commença Harman.
« Je n'en vois pas sur les bulles, ils sont tous sur le toit. Même s'ils sautent, ils n'auront pas le temps de nous atteindre. »
« Ils peuvent courir sur les bulles, » dit Pétir.
« Je n'en ai pas l'impression, » contra Anna. « On dirait qu'ils ne peuvent pas marcher sur cette substance verte. »«
Ça n'a pas de sens. »«
Peut-être bien que si, » dit Harman. Il leur parla du rampeur à bord duquel Savi, Daeman et lui s'étaient aventurés dans le bassin méditerranéen 10 mois plus tôt.
« L'habitacle de cette machine était protégé par une sphère, » expliqua-t-il, « opaque de l'extérieur mais transparente de l'intérieur. Rien ne pouvait s'y accrocher. »
Ni la pluie, ni les Voynix, quand ils ont tenté de nous attaquer à Jérusalem.
D'après Savi, le verre était englobé dans un champ de force anti-friction. Mais je ne me souviens plus si c'était du buki vert.
Rapprochons-nous,
répéta Anna. Parvenu à 5 ou 6 mètres de la bulle, Harman en localisa l'entrée. Jamais il n'aurait remarqué cette subtilité s'il n'avait pas exploré l'île de Prospero, où le sas de la cité orbitale et celui de la firmerie procédaient de la même technologie. Au bord de la bulle allongée se dessinait un rectangle à peine visible, d'un vert plus clair que le reste du buki vert. Savi appelait cela une membrane semi-perméable, dit-il à ses deux compagnons.
Et s'il ne s'agit pas d'une membrane semi-machin, mais d'une simple illusion d'optique, demanda Pétir, eh bien, on s'écrasera.
Harman manipula l'omnicontrôleur et le Sony fonça droit devant.
Si vous l'abandonnez là-dedans, il mourra.
Dit une voix dans l'ombre. Puis Ariel s'avança en pleine lumière. La membrane semi-perméable les avait laissés passer, se refermant aussitôt derrière eux. Harman avait posé le Sony dans le garage encombré de pièces détachées, et les trois amis s'étaient empressés d'évacuer Odysseus Person sur sa civière. Anna prenant les brancards avant et Harman marchant derrière, tandis que Pétir restait sur le qui-vive, l'arc au poing. Ils avaient foncé dans le dédale de bulles vertes, franchissant corridors et escalators figés en quête des cercueils de cristal où, à en croire Savi, Odysseus et elle avaient passé tant d'années en cryosommeil. Au bout de quelques minutes à peine, Harman était plein d'admiration pour Anna, non seulement à cause de sa mémoire, jamais elle n'hésitait lorsqu'il débouchait sur un croisement de corridors ou d'escaliers, mais aussi à cause de sa force physique. La mince jeune femme n'était même pas essoufflée alors qu'il était déjà prêt à demander une pause. Odysseus Person n'était pas très grand, mais il était fichtrement lourd. Harman se surprit à examiner son torse pour vérifier qu'il respirait encore. Son souffle était à peine perceptible. Lorsqu'ils arrivèrent devant le corridor en hélice montant le long du pylône, ils hésitèrent un instant et Pétir leva son arc. Plusieurs dizaines de Voynix les guettaient depuis la chaussée métallique, tournant vers eux leur tête sans yeux.
« Ils ne peuvent pas nous voir !» déclara Anna. « La bulle est opaque de l'extérieur. »«
Détrompe-toi !» rétorqua Harman. « D'après Savi, leurs capteurs perçoivent les rayons infrarouges. Autrement dit, ils captent le dégagement de chaleur et pas seulement la lumière. J'ai l'impression qu'ils suivent parfaitement nos mouvements derrière le buki vert. »
Ils avancèrent de 30 pas et les Voynix changèrent de position pour les conserver dans leur champ de perception. Soudain, une demi-douzaine d'entre eux sautèrent sur la bulle. Pétir les mit en joue et Harman était sûr qu'ils allaient fracasser la paroi, mais il n'entendit qu'un bruit étouffé lorsqu'ils heurtèrent le champ de force, puis il les vit glisser et s'abîmer dans le vide. Les trois compagnons se trouvaient dans une section où le sol était presque transparent, ce qui n'était pas sans les déstabiliser, bien qu'Arman et Anna aient su d'expérience qu'ils ne risquaient rien. Pétir, quant à lui, ne cessait de baisser les yeux avec appréhension. Ils traversèrent la plus vaste de toutes les salles, que Savi avait qualifiée de musée, pour déboucher dans celle qui abritait les cercueils de cristal. La paroi de buckyvert était d'un vert profond et totalement opaque. Arman pensa à sa randonnée dans la brèche atlantique, et dire que 18 mois s'étaient écoulés depuis, lorsqu'il s'était retrouvé entre deux gigantesques parois d'eau, derrière lesquelles les poissons nageaient plusieurs mètres au-dessus de lui. La lumière qui avait éclairé cette scène était fort semblable à celle-ci. Anna abaissa ses brancards, imitée par Arman avec un temps de retard, et elle parcourut les lieux du regard.
« Quel cryocrèche faut-il choisir ?»
La salle contenait 8 cercueils, tous vides et reflétant faiblement la chiche lumière. Chacun était connecté à une machine bourdonnante, et au-dessus d'eux flottaient des voyants virtuels verts, rouges et orangés.
« Aucune idée !» répondit Arman.
Sa vie avait dormi des siècles dans l'une de ces cryocrèches, mais 10 mois s'étaient écoulés depuis qu'elle avait fait cette révélation dans le rampeur alors qu'il roulait dans le bassin méditerranéen, et il ne se rappelait plus les détails, si tant est qu'il y en eût.
« Eh bien, essayons la première, » dit-il.
Il passa les bras sous les aisselles d'Odysseus et attendit qu'Anna et Pétir viennent l'aider, puis tous trois le transportèrent vers le cercueil le plus proche d'un escalier en colimaçon donnant sur un autre corridor.
« Si vous l'abandonnez là-dedans, il mourra, »
dit une douce voix androgyne dans les ténèbres. Ils s'empressèrent de reposer Odysseus sur sa civière. Pétir leva son arc. Arman et Anna empoignèrent leurs épées. Une silhouette émergea des ombres derrière les machines. Arman sut tout de suite qu'il s'agissait de l'Ariel dont avait parlé Savi puis Prospero, sans toutefois pouvoir dire comment il le savait. L'être était de petite taille, à peine 1,50 m, et pas tout à fait humain. Il ou elle avait une peau vert pâle qui n'en était pas vraiment une, son épiderme translucide laissait clairement voir l'intérieur de son corps, où des étincelles flottaient au sein d'un fluide couleur émeraude, et un visage d'une perfection androgyne qui rappelait à Arman les images d'anges qu'il avait siglées dans les livres les plus anciens de la bibliothèque d'Ardis. Il ou elle avait des bras longilignes qui s'achevaient par des mains normales, aux doigts extrêmement gracieux, et portaient aux pieds des sandales vertes. Arman crut d'abord qu'Ariel portait aussi des vêtements, ou plutôt que son corps était emmailloté dans des lianes aux feuilles vert pâle. Puis il comprit que cette parure lui poussait sur la peau. Il était impossible de déterminer son sexe. Le visage d'Ariel était des plus humains. Un nez long et fin, des lèvres charnues aux plis ironiques, des yeux noirs, une cascade de boucles d'un blanc teinté de vert. Mais il suffisait de voir sa peau translucide et les nodules de lumière qui flottaient en lui pour comprendre qu'il n'avait rien d'humain.
« Vous êtes Ariel, » affirma Arman avec toutefois une légère hésitation.
L'autre inclina la tête en signe d'assentiment.
« Je vois que sa vie en personne t'a parlé de moi, »
dit la créature d'une voix dont la douceur était quelque peu irritante.
« Oui, mais je croyais que vous seriez intangible, comme la projection de Prospero. »«
Un hologramme ? Non. Prospero prend substance comme il lui plaît, mais cela ne lui plaît que rarement. Quant à moi, bien que maintes personnes m'aient longtemps qualifié de pur esprit, je préfère le matériel.
Pourquoi dites-vous que cette crèche tuerait Odysseus ?
Demanda Anna. Elle s'était accroupie près du blessé pour lui prendre le pouls. Arman avait la nette impression que personne n'était mort.
Ces crèches sont celles qu'utilisait Savi,
dit Ariel en désignant les 8 cercueils de cristal.
Certes. En leur sein, l'activité du corps est suspendue, comme les selles d'un insecte dans l'ambre ou d'un cadavre dans la glace. Mais ces crèches-ci ne soignent rien.
Odysseus cache ici depuis des siècles sa propre arche temporelle. Ses capacités dépassent ma compréhension.
Qu'êtes-vous exactement ?
S'enquit la jeune femme en se levant.
Arman nous a dit qu'Ariel était un avatar de la biosphère consciente. Mais je ne sais pas ce que ça signifie.
Personne ne le sait.
Répondit Ariel en esquissant une révérence.
Voulez-vous me suivre jusqu'à l'arche d'Odysseus ?
L'être se dirigea vers l'escalier en colimaçon qui menait au niveau supérieur, mais plutôt que de s'y engager, Il plaqua sa main droite sur le sol, déclenchant l'ouverture d'une trappe en iris donnant sur un escalier qui descendait vers les profondeurs. Celui-ci était suffisamment large pour laisser passer deux personnes portant une civière, mais la manœuvre n'était pas des plus aisées. Pétir dut assister Anna afin que le blessé ne tombât pas sur les marches. Ils s'engagèrent ensuite dans un corridor qui débouchait sur une petite pièce encore plus sombre que la salle des cryocrèches. Arman sursauta en se rendant compte qu'il ne se trouvait pas à l'intérieur d'une bulle, mais bien dans un espace creusé dans le pylône de béton armé. Il n'y avait là qu'une seule crèche, qui ne ressemblait en rien au cercueil de cristal. Plus grande, plus sombre, plus massive, elle consistait en un cercueil au couvercle d'onyx, creusé d'une fenêtre permettant de voir le visage de son occupant. Une myriade de câbles, de conduits et de tuyaux le reliait à une immense machine noire qui ne présentait ni cadran ni voyant d'aucune sorte. L'air était imprégné d'une forte odeur rappelant celle qui annonce une tempête. Ariel pressa un panneau sur le flanc de l'arche temporelle et le long couvercle s'ouvrit en sifflant. Le capitonnage, à la trame usée et aux couleurs passées, portait l'empreinte d'un corps dont la stature correspondait à celui de personne. Arman échangea un regard avec Anna et après un instant d'hésitation, ils déposèrent Odysseus Personne dans l'arche. Ariel fit mine de refermer celle-ci, mais Anna s'avança vivement et se pencha sur Odysseus pour déposer un baiser sur ses lèvres. Puis elle recula et laissa Ariel compléter la manœuvre. Le couvercle se referma dans un bruit sinistre. Une sphère orangée apparut aussitôt entre l'arche et la machine noire.
« Qu'est-ce que ça signifie ?» demanda Anna. « Est-ce qu'il va survivre ?»
Ariel haussa les épaules, une ondulation des plus gracieuses.
« Ariel est le dernier des êtres vivants à pouvoir lire le cœur d'une simple machine. Mais celle-ci décide du sort de son occupant en trois révolutions de ce monde. Venez, nous devons partir. L'air dans cette pièce sera bientôt brûlant et irrespirable. Remontons à la lumière, afin de nous entretenir comme des créatures civilisées. »
« Je ne quitte pas Odysseus, » déclara Anna. Si nous devons être fixés sur son sort dans les 72 heures, alors j'attendrai ici.
Tu ne peux pas faire ça,
s'exclama Pétir indigné.
Nous devons dénicher ses armes et regagner Ardis le plus vite possible.
La chaleur devenait de plus en plus étouffante. Arman sentait la sueur couler sur ses côtes. L'odeur de tempête se faisait plus prenante. Anna s'écarta de ses deux amis et croisa les bras. De toute évidence, sa décision était prise.
« Tu mourras en rafraîchissant cet air fétide de tes soupirs ?» dit Ariel. « Mais si tu souhaites savoir comment se porte ton bien-aimé, approche-toi. »
Anna s'exécuta. Elle paraissait gigantesque à côté du corps frêle et lumineux d'Ariel.
« Donne-moi ta main, mon enfant. »
Anna tendit la main d'un air méfiant. Ariel la saisit, la plaqua contre son torse et la poussa à l'intérieur. Surprise, Anna voulut la retirer, mais la force supérieure d'Ariel l'en empêcha. Avant qu'Arman et Pétir aient eu le temps d'intervenir, la main d'Anna réapparut à la vue. Horrifiée, la jeune femme fixa un nodule d'un verre doré posé sur sa paume. Sous les yeux des trois humains, il sembla se dissoudre et se fondre dans sa chair. Anna poussa un nouveau hoquet.
« Ce n'est qu'un marqueur, » dit Ariel. « Quand l'état de ton amant s'altérera, « tu le sauras sur le champ. »«
Mais comment ?»
demanda-t-elle. Arman vit qu'elle était pâle et en sueur.
« Tu le sauras, » répéta Ariel.
Ils sortirent sur ses talons, traversant le corridor en buquis verts pour remonter l'escalier. Ce fut dans un silence total qu'ils suivirent Ariel dans une série de corridors et d'escalators figés, se retrouvant dans une hélice de globules courant sous l'une des suspentes. Ils s'arrêtèrent dans une salle de verre fixée à une entretoise du pylône sud. Les Voynix ne cessaient de se jeter sur la paroi verte, incapables de s'y accrocher bien qu'ils eussent déployé toutes leurs lames. Sans leur accorder la moindre attention, Ariel conduisit le petit groupe dans la plus vaste pièce de cette section. Il s'y trouvait des tables et des chaises, ainsi que des bulles à micro-ondes.
« Je reconnais cet endroit, » dit Arman. « C'est là que nous avons dîné le soir de notre passage. »
Odysseus a fait rôtir de l'oiseau terreur sur ce câble, en pleine tempête. Tu te rappelles, Anna?
Cette dernière hocha la tête d'un air soucieux. Elle ne cessait de se mordiller la lèvre inférieure.
« J'ai pensé que vous souhaiteriez manger, »
dit Ariel. « Nous n'avons pas le temps de... » Pétir ne laissa pas à Arman le loisir de finir sa phrase. « Nous avons faim, » dit-il. « Nous prendrons le temps de manger. » Ariel les invita à s'asseoir à la table ronde. Il ou elle réchauffa 3 bols de soupe, puis les apporta sur la table, ainsi que des cuillères et des serviettes. Il ou elle servit de l'eau fraîche dans 4 verres, posa ceci sur la table et s'assit à son tour. Arman goûta la soupe, un délicieux potage aux légumes frais, et la mangea avec appétit. Pétir, toujours méfiant, la consommait avec lenteur, sans quitter des yeux l'avatar de la biosphère. Anna ne toucha pas à son bol. Elle semblait renfermée sur elle-même, hors d'atteinte, comme si le cadeau d'Ariel l'avait altérée.
« C'est de la folie, » se dit Arman. « Cette créature s'est fait extraire un nodule par l'une des nôtres ? Et voilà que nous perdons du temps à manger de la soupe chaude pendant que les Voyniks s'agitent à 3 mètres de là, et que l'avatar de la biosphère planétaire joue les serviteurs pour notre bénéfice. Je suis sûrement devenu fou. »
Ce qui n'empêchait pas cette soupe d'être excellente, reconnut-il. Il pensa à Ada et poursuivit son repas.
« Que faites-vous ici ?» demanda Pétir.
Il avait repoussé son bol et fixé Ariel avec insistance. Son arc était calé contre sa chaise.
« Que souhaitez-vous que je vous dise ?»
demanda Ariel.
« Qu'est-ce qui se passe, bon sang ?»
s'emporta le jeune homme qui n'était pas connu pour sa subtilité.
« Qui êtes-vous vraiment ? Qu'est-ce que ces Voyniks fichent ici ? Et pourquoi ont-ils attaqué Ardis ? Qu'est-ce que c'est que cette monstruosité que Daemon a vue à Paris Cratère ? S'agit-il d'une menace ? Et si oui, comment pouvons-nous la tuer ?»
Ariel sourit.
« Cette question est toujours l'une des premières que pose ton espèce.
Qu'est-ce donc que ceci et comment puis-je le tuer ?»
Pétir attendit sans rien dire. Arman posa sa cuillère.
« C'est une bonne question, » reprit Ariel. « Car si vous étiez les premiers hommes à vous lever plutôt que les derniers, vous vous exclameriez « L'enfer est vide de ces diables, tous sont ici !» Mais... « C'est une longue histoire, aussi longue que celle d'Odysseus le mourant, je crois, et difficile à conter en buvant de la soupe froide. »«
Commencez donc par nous dire qui vous êtes, » lança Arman. « Êtes-vous la créature de Prospero ?»«
Je l'ai jadis été, ni esclave, ni serviteur, mais inféodé à lui. »«
Pourquoi ?» demanda Pétir.
« Il pleuvait fort au dehors ?» L'eau glissait sur le buc hiver comme l'avaient fait les lames des Voyniks. La conversation se déroulait cependant sur fond de tonnerre.
Le mage de la logosphère m'a sauvé des griffes de la sorcière Sycorax, dont j'étais alors le serviteur. C'était elle qui maîtrisait les codes profonds de la biosphère, elle qui avait invoqué Cétébos, son seigneur. Mais lorsque je me suis révélé en esprit trop délicat, pour seconder ses fins basses et détestables, elle a cédé à une colère implacable et m'a confiné dans un pain éclaté, en la fente duquel je demeurais 12 fois 12 années, avant d'être libéré par Prospero.
« C'est Prospero qui vous a sauvé, » dit Arman.
« Il ne l'a fait que pour obtenir mon service. »
Les fines lèvres d'Ariel s'incurvèrent.
Et il a exigé que je le serve 12 fois 12 années.
Et vous l'avez fait, sans qu'il pétire ?
Oui.
Le servez-vous aujourd'hui ?
Demanda Arman.
Je ne sers plus ni homme ni mage.
Caliban a jadis servi Prospero,
dit Arman qui fit un effort de mémoire pour se rappeler tout ce que lui avait dit sa vie, puis l'hologramme nommé Prospero.
Connaissez-vous Caliban ?
Oui. Je n'aime pas à regarder ce misérable.
Savez-vous si Caliban est revenu sur Terre ?
Insista Arman,
comme il regrettait l'absence de Daemon.
C'est la vérité et tu le sais,
répondit Ariel.
Il veut que la Terre devienne pareille à son étang mantelé de fange. Il veut faire du ciel gelé sa cellule.
Du ciel gelé sa cellule,
répéta mentalement Arman.
Donc, Caliban est un allié de ce Cétébos.
Oui. Pourquoi vous êtes-vous montré à nous ?
Demanda Anna.
Elle semblait toujours aussi soucieuse, mais elle s'était tournée vers Ariel. Celui-ci se mit à chanter.
L'abeille butine ainsi fêche, j'emprunte au coucou sa clochette et dors au cri de la chouette. Sur la chauve-souris montée, je pourchasse gaiement l'été. Gaiement, oui, gaiement, désormais vivrai-je sous la fleur éclose, au rameau fruitier.
Cette créature est dingue, décréta Petyr. Il se leva d'un bond, se dirigea vers la paroi côté pont. Trois voïniks bondirent dans sa direction, frappèrent le champ de force qui protégeait le buc hiver et retombèrent. L'un d'eux réussit à planter ses lames dans le béton du pont, les deux autres disparurent dans la grisaille. Ariel eut un petit rire, puis il ou elle pleura.
Notre terre commune est en état de siège. La guerre est arrivée ici. Sa vie est morte. Odysseus se meurt. Cétébos veut tuer tout ce que je suis, tout ce dont je procède, tout ce que je dois protéger. Vous autres, humains à l'ancienne, devez être mes ennemis ou mes alliés. Vous serez mes alliés. Je ne vous laisse pas le choix.
Vous allez nous aider à affronter les Voïniks, Caliban et ce Cétébos ? Demanda Arman.
Non. C'est vous qui allez m'aider.
Comment ? Demanda Anna.
J'ai des tâches à vous confier. Premièrement, vous êtes venu ici pour chercher des armes ?
Oui, s'écrièrent-ils tous les trois.
Les deux qui resteront ici trouveront ces armes dans un compartiment secret situé au pied du pylône sud, derrière les antiques ordinateurs. Cherchez sur le verre opaque un cercle où est inscrit un pentacle. Dites-lui « ouvre-toi » et vous découvrirez la pièce où le rusé Odysseus et cette pauvre Savie ont dissimulé leurs petits jouets datant de l'ère perdue.
Les deux qui resteront ici, répéta Petyr.
L'un de vous trois doit reconduire le Sony à Ardis avant qu'Ardis ne succombe, reprit Ariel. Le deuxième doit rester ici pour prendre soin d'Odysseus si jamais il survit, car lui seul connaît les secrets de Sycorax, dont il fut jadis l'amant. Et nul ne devient l'amant de Sycorax sans en être altéré. Le troisième d'entre vous doit m'accompagner.
Les trois humains échangèrent un regard. Dans cette obscurité cernée par la pluie, ils avaient l'impression de se trouver dans un monde sous-marin où toute chose était éclairée d'une lueur glauque.
« Je reste !» déclara Anna. « De toute façon, c'est ce que j'avais décidé. Si Odysseus se réveille, il faut que quelqu'un soit à son chevet. »
« Je ramène le Sony à la maison, » dit Arman. Il avait honte de sa lâcheté, mais s'en souciait comme d'une guigne. Il devait retrouver Ada. « Je vous accompagne, Ariel, » conclut Petyr en se rapprochant de la délicate créature.
« Non, »
dit celle-ci. Les trois humains échangèrent un nouveau regard, puis attendirent.
« Non, c'est Arman qui doit m'accompagner. Nous dirons au Sony de ramener Petyr au bercail, » mais à une vitesse deux fois moins élevée. C'est une vieille machine et il convient de l'aménager. Arman doit venir avec moi.
Pourquoi ? Dit l'intéressé. Il n'était pas question qu'il abandonne Ada. De cela, au moins, il était sûr.
Parce que ton destin est de te noyer, dit Ariel, et parce que la vie de ton épouse et de ton enfant dépend de ton destin. Le destin d'Arman, ce jour, est de m'accompagner.
Ariel s'éleva au-dessus du sol comme s'il ne pesait rien, se mit à flotter au-dessus d'eux, à flotter 2 mètres au-dessus de la table, et entonna un nouveau chant sans jamais quitter Arman du regard.
Par 5 bras sous les eaux, Arman engourdit sommeil. De ses eaux naît le corail, de ses yeux naissent les perles. Rien chez lui de corruptible, dont la mer ne vienne à faire quelque trésor insolite. Ding dong, ding dong.
Non, fit Arman. Je regrette, mais non.
Pétir encocha une flèche et tendit son arc.
Vas-tu à la chasse aux étourneaux ?
Demanda Ariel. Il, elle, se trouvait maintenant à 6 mètres d'altitude, mais on percevait nettement son sourire.
Non,
fit Anna. Mais Arman ne devait jamais savoir si elle s'adressait à Ariel ou à Pétir.
C'est l'heure,
dit Ariel en étouffant un rire. Les lumières s'éteignaient. Dans les ténèbres absolues résonna un bruissement d'ailes, comme celui d'un gigantesque hibou, et Arman se sentit emporté dans les airs, aussi impuissant qu'un lapereau capturé par un rapace, se sentit voler à la renverse au sein des ténèbres, sombrer dans la soudaine noirceur qui s'ouvrait entre les piliers du Golden Gate à Machu Picchu.